Tous les mardis dès 11h30 sur RTL L'Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL L'Équipe. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour Clore en Beauté et en débat, surtout une saison 2010-2011 qui a donc sacré le Stade Toulousain, un nouveau titre pour Ginovès, un nouveau bouclier de Brennus pour la Ville Rose. Voilà pour les chiffres et les données, la logique implacable de la puissance et de l'expérience a parlé. Les rouges et noirs étaient trop forts samedi pour des Montpelliérains vaillants mais indisciplinés. Alors que retenir de cette nouvelle saison de rugby qui s'achève? Que Toulouse est tout simplement trop grand, trop riche, trop bien structuré, trop bien managé pour avoir un quelconque rival à l'échelle nationale. Que le rugby des champs est mort, que le rugby des grandes villes a de beaux jours devant lui, que le top 14 aussi est riche, mais que cette richesse actuelle est peut-être sa future faillite. Et qu'attendre alors des prochaines semaines? Un été brûlant déjà, préparation à la Coupe du Monde avec un groupe en chantier et des ambitions en forme de points d'interrogation. Et une saison de tous les dangers avec un top 14 plus dense et relevé de jamais qui accueille Lyon et Bordeaux en son sein. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le www.rtl-l'équipe.fr. Carrément Rugby débute maintenant.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à 12h30.
Une émission que vous pouvez bien sûr réécouter cet après-midi de 15h30 à 16h30, juste avant le coup d'envoi de Carrément Foot, présenté jusqu'à 18h, vous le savez, par Raphaël Sebaoun. Mais un Carrément Rugby que vous pouvez également retrouver en podcast dès le début d'après-midi sur notre site internet, mais aussi et surtout, selon la formule consacrée, sur l'excellent rugbyconnection.com. Du nom moins excellent, Ludovic Ninet. Bonjour Ludo.
Salut Clément, bonjour à tous.
Pierre Salviac également dans ce studio, déjà en train de tweeter. Pierrot, comment ça va?
Oui, bonjour à tous, bienvenue, merci de votre fidélité.
Pierre Firsion également est en notre compagnie. Salut Pierre.
Salut Clément, salut à tous.
On aura peut-être la visite d'ici la fin de cette émission de Renaud Bourrel, notre confrère du quotidien L'Équipe, qui passera peut-être s'il le peut, si l'actualité de la semaine lui offre une fenêtre de tir pour intégrer ce studio 22 rue Bayard à Paris, pour qu'il nous donne ses impressions sur l'actualité de cette semaine, une actualité évidemment marqué par la nouvelle victoire des Toulousains, le 18e bouclier de Brennus pour la Ville Rose. Une victoire en finale samedi soir 15 à 10 contre Montpellier. Une finale, messieurs, qui globalement n'a pas tenu toutes ses promesses. On attendait du jeu, on attendait du spectacle. Et on a vu ce qu'on peut appeler peut-être une finale petit bras, Ludovic Ninet.
Oui, c'est pas forcément hyper surprenant. On va dire que ça peut arriver souvent en finale, hein. Selon la formule consacrée, une finale ça se gagne avant tout. Et on sait que pour gagner, on n'est malheureusement pas forcément obligé de beaucoup jouer. Voilà, c'est vrai qu'on a vu deux équipes qui l'une et l'autre avaient montré en demi-finale de vraies vertus défensives, et c'est essentiellement ces vertus-là qu'on a retrouvées sur la pelouse samedi soir. Et malheureusement, les attaques n'ont pas réellement su prendre le pas sur ces défenses. Voilà, c'est vrai que ça peut être source de frustration. Maintenant, c'est pas forcément une grande surprise à ce stade de la compétition.
Est-ce que du coup on a été déçu, Pierre Firsion, par
cette finale? Oui, c'est vrai que ça a été un match lénifiant. C'est vrai qu'on s'est, moi honnêtement, je me suis un peu ennuyé devant ma télé, notamment en première période. Il y a la fin du match qui est un petit peu emballante parce qu'on se dit que Montpellier peut peut-être arracher la victoire dans les dernières minutes, mais bon, on sent que quand Toulouse repasse devant, en plus, si on refait un petit peu le match, on se dit que si David Skrela ce jour-là est dans un jour normal, voire dans un bon jour, il n'y a pas le suspense qu'il y aura à la fin du match, parce que je pense qu'à la vue de la rencontre, et les auditeurs seront d'accord à mon avis, Toulouse doit l'emporter de 10, 15, 20 points, parce que Montpellier est assez fatigué en cette fin de saison. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Je pense que Toulouse aurait mérité de l'emporter plus largement. Ça ne remet rien en cause par rapport au fait que Montpellier a mérité d'être en finale et a fait une saison exceptionnelle. Mais c'est vrai que le match en soi était un petit peu décevant, mais c'est exactement ce que disait Ludovic. Une finale, on joue pour la gagner, et le jeu passe au second plan en général.
Ça n'a pas dû être le type de rencontre qui vous a passionné, mon bon Pierrot Salviac.
C'est surtout que si Skrela n'avait pas été marabouté comme l'ont été avant lui Tellet et Wisniewski, c'est sûr que la cause de Toulouse aurait été entendue avant. Maintenant, si c'est pour gagner une finale de football, moi j'attends autre chose d'une partie de rugby à 15 prétendument joué entre les deux meilleures équipes de l'année. Ou alors ça remet en cause la phase finale du championnat, puisqu'on admet qu'en finale, ce n'est pas nécessairement le jeu qui doit primer, mais c'est plutôt le résultat. Alors autant donner le titre à celui qui était le plus régulier sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire à la fin du top 14. Et dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est Toulouse qui aurait été couronné.
Et puisque finalement, il n'y a pas eu de surprise, Toulouse s'est imposé assez largement, a écrasé Clermont en profitant de sa réussite, a écrasé Montpellier sans pour autant le montrer au score, puisque la victoire n'est que de 15-10. On va revenir sur les clés de cette rencontre, messieurs. Pierre Firsion, tout à l'heure, parlait de la fatigue des Montpelliérains. C'est vrai qu'on a très vite compris que voilà, Toulouse dominait largement ce match, que Montpellier ne pouvait croire en sa réussite et en sa victoire finale que sur le détail du jeu au pied de David Strella.
Oui, bah Montpellier, faut le rappeler, c'était leur 53e semaine consécutive de saison. Ils avaient commencé le 31 mai, je crois, leur pré-saison l'an passé. Donc forcément, alors même s'il y a eu des semaines de récup au cours de la saison, ils étaient forcément effectivement un peu sur les rotules. Et peut-être qu'on peut voir aussi l'intérêt pour Toulouse de ne pas avoir joué de match de barrage, d'avoir eu ces fameuses 3 semaines dont on avait beaucoup parlé. Est-ce qu'elles allaient être bénéfiques ou pas? On peut penser qu'elles l'ont été justement par rapport à la fraîcheur ou peut-être la force physique dont ils ont fait preuve samedi soir. Et que n'avait pas Montpellier.
Alors, force physique, bien sûr, force générale du club toulousain, un exemple, le banc toulousain qui fait la différence en fin de rencontre par rapport à un banc montpelliérain qui était inexpérimenté et beaucoup moins talentueux.
C'est pas le banc qui fait la différence, je suis désolé.
Entre autres.
Mais non, c'est encore une fois, quand tu joues une finale et que tu joues 20 minutes à 14 contre 15 alors que tu n'es pas favori en plus de cette finale, tu as un handicap insurmontable.
C'est la troisième fois dans ces phases finales que les Montpelliérains se retrouvent dans cette situation.
C'est la troisième fois, ça veut dire que cette équipe, à propos de laquelle on dit qu'elle a beaucoup joué, etc. Je note que même en finale, elle a encore bien défendu. Donc elle avait encore du jus, au moins pour défendre. Mais une équipe...
En se mettant souvent la faute.
Ouais, non mais, je veux dire, c'est ce qui arrive à toutes les équipes qui sont en infériorité. Moi, j'ai vu ça avec La Rochelle toute la saison. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que le carton jaune est une mauvaise chose. Mais le carton jaune pèse de plus en plus sur le résultat d'une rencontre. Alors on va me dire, bah oui, mais faut pas faire de faute. Bah oui, mais quand effectivement tu es dominé, à un moment donné, tu te mets à la faute.
Il n'y a pas d'injustice sur les cartons jaunes.
Non, c'est pas une injustice. C'est pas une injustice, mais ça peut expliquer aussi en partie pourquoi les équipes présumées supérieures gagnent très souvent leurs matchs à cause des cartons jaunes que prennent les équipes présumées inférieures.
Mais là, juste, si on regarde en plus le match en détail, on peut s'apercevoir quand même que l'arbitre de la rencontre est même un petit peu généreux, moi je pense, avec les Montpelliérains, parce qu'il peut sortir le deuxième carton jaune qui sort à 5 minutes de la fin pour Payog. Il peut le sortir vraiment avant, parce que les Montpelliers sont très souvent, très très souvent à la limite. Ils sont en général très souvent en jeu, parce qu'ils sont, comme le dit Pierre, ils sont fatigués. Oui, mais en même temps, on respecte la règle, on respecte la faute. Bon, il y a juste une chose, Pierre disait tout à l'heure, bon, mais plus besoin de faire de phase finale si on n'a pas de match en ballon. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je me souviens d'un Toulouse-Bourgoin en 97.
Alors,
ça se joue à 12 à 6 et c'était vraiment pas en ballon. Mais on peut revenir encore dans le passé. Ça a toujours existé. Une finale, on le sait, et Pierre, tu es le premier de le savoir. Une finale, ça se joue pour se gagner. Ça se joue. Une demi-finale, c'est différent parce que on a vu de demi-finales assez emballantes cette année et même ce Racing Montpellier qui était un match vraiment intéressant. Vraiment, on a pris du plaisir à le voir avec 5 essais de marquer. Une finale, c'est différent. Une finale, c'est pas vrai qu'en rugby, c'est vrai dans tous les sports.
Une finale, ça se joue pour se gagner, pour ceux qui la jouent. Mais moi, j'ai regardé les chiffres d'audience. Ils ne sont pas extraordinaires. Et que si on continue de jouer des finales comme ça, les chiffres d'audience risquent d'être encore moins extraordinaires. Parce que si tu fais la comparaison entre la finale de...
C'est pas lié à l'affiche, ça.
Si tu fais la comparaison entre la finale de la H-Cup et la finale de ce championnat de France. Moi, je suis désolé, mais il me reste des images fortes de la H-Cup. Il me reste rien de cette finale du championnat de France. Et à un moment donné, quand tu es téléspectateur, qui sont a priori plus nombreux que les spectateurs, et qui ne sont pas nécessairement des supporters de l'une ou l'autre équipe, à un moment donné, tu te dis, et il s'est passé la même chose pour France-Ukraine d'hier en football, à un moment tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup que je condamne un samedi après-midi, un samedi soir pour voir ça? Il y a un moment donné, il faut se poser ces questions-là. On est dans un sport professionnel, dans un sport spectacle. Et moi, je veux bien que l'argument de « une finale, c'est fait pour être gagné », nous soit servi régulièrement. J'en accepte l'argument, mais je dis attention.
Et dans ce sport-spectacle, d'ailleurs, le rôle des acteurs, donc les joueurs, a son importance. Un joueur qui fait des fautes tout le temps, c'est qu'à un moment, donc, il ne respecte pas la règle, bien sûr. Si, par exemple, on va mettre tout le temps la main sur le ballon, on empêche l'équipe attaquante d'envoyer du jeu rapidement.
C'est la faute de Nalouza, notamment.
On pourrit le spectacle, par exemple. Et voilà. Alors après, sur les fautes de Montpellier, on peut revenir. Si on prend l'exemple d'un joueur comme Gorgodze, qui a fait une énorme finale, qui a fait une grosse demi-finale aussi, c'est quand même un gap, hein, qui va coûter 3 à 6 points à son équipe par match. Si vous regardez le nombre de pénalités qu'il prend, et c'est souvent des pénalités qui sont dans son camp, qui entraînent des points. Voilà, ça c'est un joueur, alors il est exceptionnel, il met des grosses cartouches, etc. Mais il coûte à son équipe, et c'est là, certainement là-dedans que Montpellier doit progresser, c'est-à-dire arrêter de faire ses fautes bêtes. Et on prenait l'exemple d'Albacete sur Rugby Connection, qui avait en demi-finale de Coupe d'Europe coûté des points parce qu'il était un peu pris par le rythme, etc. Et ce qui n'avait pas été le cas ensuite en top 14 parce qu'il était un peu supérieur. Et bien là, voilà, c'est ce type d'écart de niveau que doit franchir Montpellier. Et après, pour revenir à ce que tu disais, Pierre, sur le spectacle, c'est évident que dans certains autres championnats où peut-être que la rigueur des arbitres est un peu différente, et on le voit notamment en Coupe d'Europe, tricher, on peut un peu moins le faire, donc ça entraîne un meilleur spectacle.
Je ne remets pas en question les cartons jaunes, mais je fais remarquer, et ça ne vient pas de moi, ça vient d'un technicien gallois, enfin technicien proche de l'équipe de Galles, qui avait noté qu'un carton jaune, ça représentait moins 10 points statistiquement. Moins 10 points, c'est presque un pénalty, c'est pas un coup franc. Donc, à un moment donné, il faut se poser aussi...
Sauf que ça n'a pas été le cas du tout depuis le début de ces phases finales. On se souvient de Montpellier face au Racing.
Globalement, statistiquement, c'est un très lourd handicap. Et c'est rare, c'est quand même très rare, que l'équipe qui se prend deux fois un carton jaune dans le match finisse par le gagner.
Perfection. Oui, mais je pense qu'il va falloir, et c'est tout le travail que va devoir faire Fabien Galthié s'il est encore l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine.
Pourquoi t'as du gros, t'as du lourd?
Non, on peut imaginer, on peut se poser des questions sur le sujet. Je pense que ça va être un des travaux qu'il va avoir à faire avec Eric Béchu, travailler là-dessus, parce que c'est vrai que son équipe fait sans doute commis trop de fautes. Alors, est-ce qu'il y a la fatigue? Je pense qu'il n'y a pas que la fatigue qui explique cela aussi. Moi, juste, je voulais revenir sur ce que Pierre disait précédemment. Si on avait eu, on ne va pas refaire l'histoire, mais si on avait eu une finale de Toulouse Racing, je ne suis pas persuadé qu'en termes d'audience, on aurait eu des audiences aussi basses. Je pense que l'audience aurait été beaucoup plus forte. En plus, le Racing avait passé 40 points à Toulouse ou 30 points à Toulouse il y a deux mois. Donc, voilà, c'est l'affiche de la finale. Toulouse-Montpellier, je pense que 80% des téléspectateurs ou des gens qui connaissent un petit peu en rugby se disaient, bon, voilà, Toulouse va gagner assez facilement, donc on ne va pas forcément regarder le match, on va pas se bloquer le samedi soir là-dessus parce que Montpellier, c'est une équipe surprise, mais ils sont bêtes un petit peu fatigués en cette fin de saison. Si on avait eu Toulouse Racing, je ne suis pas persuadé que les audiences auraient été si basses. Et peut-être qu'on aurait eu un match aussi différent. Mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est vrai dans tous les sports. Dans tous les sports, une
Racing,
finale.
Dans ce cas-là, il fallait regarder Roland Garros dimanche après-midi. Oui. Parce que là, en termes de jeu, je peux dire que c'est.
Est-ce que tu te souviens.
Là, c'est inhérent au jeu qui est différent.
Est-ce que tu te souviens, d'une prestation du Racing cette saison en ballante? Il n'y en a pas eu des masses quand même.
Face au Stade Toulousain.
Mais il n'y en a pas eu des masses.
Précisément au Stade de
France.
Mais il n'y
en a pas eu des masses.
Oui, il
n'y
en a pas eu des masses.
D'accord. Bon. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour autant, parce que ça s'appelle le Racing, que ça serait une affiche spectaculaire.
Non, mais parce que
les bobos, ce seraient les bobos qui seraient venus. Mais il y en a marre des bobos.
Frédéric Michalak a quitté le Stade Toulousain pour repartir en Afrique du Sud. Il a suivi cette finale à la télé, puisque cette finale était retransmise, évidemment. Qu'est-ce que les Sud-Africains, qu'est-ce que l'hémisphère Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, toutes ces équipes qui seront favorites de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette rencontre qui était censée être la vitrine du rugby français, messieurs?
Moi, j'ai une idée, en tout cas, là-dessus.
Bah, les Sud-Africains, c'est possible que ça leur ait beaucoup plu. Hein. Ils aiment aussi quand même pas mal leur rentre dedans. Eux, c'est pas... Après, les autres... Je pense que les autres, quand même, ils ont déjà deux points de vue. Il y a un point de vue officiel, on va dire, et un officiel. Sur le point de vue officiel, ils pourraient dire ce qui arrive aussi chez eux. Hein. À regarder le Super 15, il y a aussi des matchs très barbants, des matchs où ça ouvre pas du tout, il y a plein de fautes, etc. Il y en a aussi. Hein. Faut pas non plus avoir une vision angélique angélique du rugby de l'hémisphère sud. Après, eux, ils sont pas dupes non plus. Hein. Ils savent très bien que ce type de rendez-vous, c'est pas non plus synonyme de ce qu'est capable de produire l'équipe de France. Ils sont tous conscients que l'équipe de France, elle est capable d'avoir des gros coups de moins bien et des gros coups d'éclat un peu inattendus. Donc je ne pense pas qu'il tire d'enseignement particulier d'un tel événement.
Pourtant, il y avait sur la pelouse énormément d'internationaux, on le rappelle, qui n'ont pas montré qu'ils étaient au sommet de leur art, au sommet de leur forme. Bon, il y aura cette préparation à la Coupe du Monde qui sera évidemment très importante pour recharger les accus. Mais on ne peut pas dire qu'on ait eu des internationaux français transcendants dans cette finale.
Oui, enfin, les internationaux, il n'y en avait pas tant que ça. On aurait pu estimer qu'il pourrait y en avoir plus sur une finale traditionnelle, puisque Montpellier, il n'y a pas énormément d'internationaux, même s'il y a François Trenduc et Philjean Souedraogo. Côté toulousain, bon, c'est une habitude, mais par exemple, je lisais le papier le lendemain de Pierre-Michel Baudot dans l'équipe qui disait les meilleurs, ce sont ceux qui n'ont pas été retenus pour le mondial. C'est Yannick Jozion,
Clément
Poitrenaud, qui ont été sur cette finale, Clément Poitrenaud, qui a fait, pour moi, qui a été un des meilleurs toulousains. Bon, c'est vrai, il y aurait pu y avoir plus d'internationaux pour une finale traditionnelle, il y en a plus. Donc, je ne pense pas que ce soit très révélateur, comme le disait
Ludovic.
comme le disait Ludovic, je ne pense pas que ce soit très révélateur et ça démontre que ce soit une vitrine, comme tu le disais, du rugby français, parce que bon, c'était un petit peu une finale surprise, un peu une finale inattendue.
Bon, après, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que les internationaux français, ils sont aussi en bout de course. Hein. Si Montpellier a repris le 31 mai, les internationaux français, ils étaient partis en tournée quand même en Afrique du Sud, en Argentine, une tournée qui avait duré 3 semaines. Ensuite, ils étaient revenus, ils avaient eu très peu de vacances et ensuite, ils avaient joué. Prenons l'exemple de William Servat, hein, qui sort au bout de 30 minutes, il se flingue le genou. Servat, j'arrivais tout à l'heure, il a joué 34 matchs dans la saison. C'est beaucoup moins que l'année dernière, mais c'est quand même déjà beaucoup. Il joue tous les matchs importants. On l'a souvent déjà cru assez cuit dans la saison. C'est pas non plus une surprise, malheureusement, de se dire que ces gars-là, après 12 mois sur le pont, soient pas forcément très fringants. Je pense que là, pareil, on verra un autre visage, en tout cas physique, de ces joueurs-là au mois d'août puis au mois de septembre.
D'ailleurs, la sortie de William Servat qui a dû faire parcourir un petit frisson hein, dans les tribunes des supporters toulousains, parce que c'est vrai qu'a priori, il est quand même indispensable à cette formation toulousaine. Pierre Salvat, d'accord sur Clément Poitrenaud.
Tu as dit qu'ont retenu les nations de l'hémisphère sud. J'espère qu'ils ont retenu qu'à Montpellier, il y avait de la formation française, parce que j'ai vu entrer en fin de match des joueurs formés au club. Et ça, c'est encourageant.
À Toulouse et à Montpellier.
J'espère qu'ils ont compris, et que les Français des premiers ont compris d'ailleurs, que c'était peut-être pas la peine d'aller faire le marché dans l'hémisphère sud. Il y avait de la bonne formation en France, et il y a des bons joueurs qui ont joué cette finale. Au moins ça, c'est quelque chose à retenir, me semble-t-il. Maintenant, le micro-débat médiatique à propos de Jozion et de Poitrenaud, ça commence à bien me gonfler. Parce que c'est pas parce que Jozion vient de faire deux matchs convenables qu'on doit oublier que depuis le début de la saison, c'était plus le grand Jozion. Faut pas l'oublier non plus. Et c'est pas parce que Poitrenaud a montré qu'il avait du talent, ça on le sait depuis longtemps, qu'il va pas faire une boulette dans les grands matchs. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que pour deux matchs réussis, on est en train de remettre tout en question, parce que ça, médiatiquement, ça convient à la majorité d'entre nous. Mais ça ne suffit pas.
On peut également constater, Pierre, que tu le veuilles ou non, que cette formation et que cette paire de centres Jozion-Poitrenaud n'a jamais été utilisée par Marc-Olivier Romond, qu'elle fonctionne.
En tout cas, qu'elle a fonctionné à Toulouse. Et pas tout le temps.
Et qu'on ne peut pas dire pour l'instant que les centres qui sont retenus en équipe de France donnent plus d'assurance que le duo Jozion-Poitrenaud.
Non, mais Fritz,
blessés. Mais Fritz fait partie également des points d'interrogation.
Ah bon hein. Alors pourquoi on n'en fait que Jozion-Poitrenaud? Parce que Fritz, il n'existe plus dans le système toulousain?
Est remplaçant à Toulouse. Déjà.
Ouais, il n'était pas titulaire.
Non, mais il est remplaçant à Toulouse. Attends, si tu regardes la saison. Il n'a pas été tout le temps remplaçant quand même.
Non mais après sur Jozion, je crois que le vrai débat qui se pose, c'était de dire que Jozion était cuit et qu'en réalité, peut-être que ces fameuses 3 semaines dont on a tant parlé lui ont permis de se refaire une petite santé et ça laisse penser que s'il avait eu 2 mois, comme ce sera le cas, pour se refaire une santé et pour bien se préparer, peut-être qu'on aurait retrouvé un Jozion un peu plus fringant.
Alors justement, voilà.
Est-ce qu'on va faire blesser quelqu'un pour que Jozion puisse rentrer?
J'ai déjà connu ce matin dans le passé. Hein. Dans l'équipe. Annonce que Yannick Jozion fera partie du squad tricolore à la Coupe du Monde, en remplacement sans doute d'Aurélien Rougerie.
Ou d'un autre auquel on va dire il faut que tu te blesses.
Ou d'un autre blessé.
En 99, c'est pas arrivé ça pour Mignoni, pour faire venir Galtier? Arrêtez les conneries, il faut arrêter avec ça.
Est-ce que Jozion est indispensable aujourd'hui à l'équipe de France à la lumière de ce qu'il a montré sur ses deux dernières rencontres?
Personne n'est indispensable à l'équipe de France aujourd'hui, il n'y a pas de star.
On connaît la vie de Pierre Salviac. Pierre Firsion.
Non, moi je pense, indispensable, je suis assez d'accord avec Pierre, il n'y a personne d'indispensable. Après, c'est quand même un cadre dans le vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui a une expérience en équipe de France, qui peut apporter aux plus jeunes, à ceux qui vont arriver dans cette équipe de France.
Donc, mais rugbystiquement, il a montré qu'il était à un autre niveau en cette fin de saison que le niveau qu'on lui avait connu lors des semaines précédentes.
Mais t'as vu jouer ceux qui ont été sélectionnés à sa place? Non, donc tu peux pas leur dire que ceux-là sont pas bons.
Enfin, sauf que Marty, ça fait
Maxime Mermoz a été blessé aussi une partie de la saison.
Moi,
une grande partie de la saison.
Et il est toujours blessé de toute façon.
Je pense que
Yannick Jauzion, comme le disait Ludovic, après un mois de repos, on verra un autre joueur. Après, je pense que c'est certain qu'il est plutôt plus près de la fin de sa carrière que du début. Moi, juste, je voulais revenir sur Clément Poitrelot. Je trouve un peu sévère l'avis de Pierre, qui aime bien lancer la polémique. On ne peut pas dire que Clément Poitrelot fasse des boulettes. Sa carrière, oui, il y a cette boulette face au Wasp en finale de la Coupe d'Europe.
Mais même dans le tournoi cette année.
Même dans le tournoi cette année, il est quand même...
Mais je ne remets pas en question le talent de Poitrelot, parce que tout le monde est d'accord là-dessus.
Je pense que là, c'est
un joueur... polyvalent.
Et qui a apporté vraiment toute sa fraîcheur. Oui, en plus, c'est un joueur qu'on peut faire jouer à l'arrière, qu'on peut faire jouer au centre, qu'on peut faire jouer à l'aile.
Ces boulettes-là. Qui ont des conséquences fâcheuses sur le résultat, des fois.
Alors, on va revenir sur la
finale. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur,
messieurs,
non, au contraire.
Parce qu'on aura l'occasion, évidemment, de reparler de cette équipe de France, puisque c'est la perspective qui se rapproche, là, avec cette préparation qui va durer 2 mois, donc puis la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette finale Toulouse-Montpellier. Vous posez cette question. Effectivement, une finale, ça se gagne. Est-ce que Montpellier a utilisé les bonnes armes pour espérer gagner cette rencontre? Est-ce que Montpellier n'aurait pas dû utiliser un petit peu plus de jeu, envoyer plus de jeu pour espérer contrer les Toulousains?
Qu'est-ce qui a marqué un essai?
Nalouza.
Sur
la seule offensive.
Il est d'où? Il est de Toulouse?
Non, mais après, moi, je pense que sur le jeu, vraiment, en lui-même, ce qu'ils auraient pu essayer de... Parce que c'est vrai que Nagusa marque, c'est vrai que c'est un petit exploit individuel aussi, mais c'est très bien joué. Il est face à des deuxièmes lignes, il les prend sur la vitesse, il y a rien à dire là-dessus. Mais ensuite, je pense que la défense toulousaine, qui était très agressive, et dans tous les rucks notamment, leur a mis vraiment le foutoir dans leur organisation. On voyait souvent un joueur montpelliérain qui allait au sol, un soutien, et puis tout d'un coup, il y avait 3 Toulousains qui arrivaient et qui bousculaient tout. Et Toulouse, comme on l'avait dit avant sur le match du Racing, etc., Montpellier, pardon. Comme on l'avait dit avant sur les matchs précédents, s'ils n'arrivent pas à mettre de vitesse, ils n'arrivent à rien. Et là, ils n'ont jamais été sur une avancée suffisamment significative devant pour permettre de lancer les chevaux derrière. Voilà. Mais on peut voir aussi l'inverse, se dire que Montpellier, avec ses mêmes armes, du moins avec une défense très pressante aussi, a empêché Toulouse de lancer son jeu.
Pierre. Juste une petite remarque. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est Ouédraogo. Au-delà du courage, cette présence, je pense que derrière le joueur se dessine le profil d'un grand capitaine de l'équipe de France en devenir. Et moi, je sais que dès la Coupe du Monde, si par chance pour lui, je lui souhaite, il réussit sa Coupe du Monde.
S'il joue déjà.
Et s'il joue, je vois en lui un leader, un vrai leader.
C'est en tout cas ce que semblent dire les Montpelliérains qui insistent énormément et qui ont insisté toute la semaine précédant la finale sur le rôle capital joué par Fulgence Ouédraogo. Je me tourne forcément vers toi, Ludovic, qui connais bien Fulgence Ouédraogo, puisqu'on rappelle qu'il est l'auteur de chroniques régulières sur rugbyconnection.com. Même si c'est un profil de joueur discret, d'homme discret, il a comme ça cet impact auprès de ses coéquipiers.
Et Nora,
un charisme incroyable.
En tout cas, Montpellier, maintenant, c'est une évidence. Il suffit de voir les images où on le voit parler à ses joueurs, haranguer même ses troupes. Et je crois que c'est un rôle qu'il a découvert très jeune, parce que si ma mémoire est bonne, c'est en 2009 qu'il devient capitaine, donc il n'avait que 22 ans. Et en fait, c'est un rôle qui lui a permis de s'extravertir et je pense de prendre une grande, grande confiance en lui. Et de, voilà, c'est effectivement d'avoir un rôle de vrai capitaine dans le sens où il est le leader de ses troupes, mais pour tout. C'est-à-dire qu'on le voit sur le terrain, je pense qu'il a un regard sur le jeu, il commande les touches, enfin il fait... Il rappelle peut-être des capitaines, peut-être comme Ibanez, qui prenaient beaucoup la parole. Et c'est vrai qu'on a l'exemple en équipe de France de Thierry Dussautoir, qui est un leader par l'exemple,
mais qui est un taiseux.
Voilà. Nallet était un peu ce même profil de joueur très discret, également par la parole. Ouédraogo, on sent, et pour moi c'est vraiment flagrant tout au long de cette saison, qu'il a pris vraiment un rôle à bras-le-corps et qu'il est un leader aussi par la parole.
Pour moi, il a le rayonnement d'un fourreau. Il a le rayonnement d'un fourreau sur les joueurs.
Ouais, capitaine courage, Clément. Quand on regarde sa finale, alors déjà il joue avec une main blessée, donc bon, en rugby c'est quand même assez embêtant de jouer avec une main blessée. On s'imagine qu'en plus l'adversaire peut être appuyé là où ça faisait mal.
Il a pas été ridicule pour autant.
Et
hein,
il fait un très bon match. Et alors en plus il subit un KO à la 40e minute. Il se relève, on voit qu'il parle à l'arbitre, mais on voit qu'il est pas très très en forme. Et il va rester sur le terrain. Il est encore là en deuxième mi-temps.
Il en prend un deuxième.
C'est assez. Et il là jusqu'à la 70e minute, c'est assez vraiment c'est assez épatant. Et à la fin du match, on le voit tout plein de lucidité, qui va parler à ses joueurs. Non, c'est vraiment, je suis assez d'accord avec Pierre. Je pense que c'est un futur grand de l'équipe de France et c'est un joueur dont on va reparler. Enfin, on en parle déjà beaucoup, mais dont on va reparler vraiment longtemps dans les années
à venir. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est pas Jauzion le grand gagnant de cette phase finale de championnat, c'est Ouédraogo par rapport à l'image, la dimension qu'il a prise au regard de tout le monde via la télévision. J'ai rarement vu, ça fait quand même 45 ans que je traîne mes guettes dans l'équipe de France, j'ai rarement vu une personnalité aussi forte en qualité de leader, donc de capitaine. À part Fourou, depuis Fourou, je n'ai pas vu.
Ça n'enlèvera pas aux questions qui se posent sur son profil de joueur, un petit peu plus coureur, un petit peu... Voilà.
Je pense aussi qu'il a, il a gagné cette aura à Montpellier parce qu'il y est totalement indiscutable et parce qu'il est sur le terrain vraiment le fer de lance de Montpellier. Est-ce qu'en équipe de France, lui-même se sentirait la légitimité de...
Fourou n'était pas indiscutable en équipe de France et ça ne l'empêchait pas d'être le chef.
Ouais, c'est vrai. Mais il est quand même très conscient de la concurrence qui règne en troisième ligne en équipe de France.
Pas tant que ça, finalement. Ah. Si tu regardes, il est plutôt complémentaire d'Indus Sautoir, t'es d'accord ?
Oui, il est complémentaire. Bon. Mais il est aussi, dans ce cas-là, dans ce profil-là, en concurrence avec un Julien Bonner.
Oui, mais Bonner, il peut être en concurrence avec le 8 aussi.
J'ai l'impression que c'est plus vraiment le cas quand même, qu'ils ont décidé d'avoir des 8 beaucoup plus denses physiquement. Et
là, il y a quand même beaucoup de 8 possibles dans cette équipe de France, avec Julien Bonner, avec Emmanuel Arenordotti, avec Raphaël Lacafia, avec Louis Picamol. On a quand même plutôt des 8 structurés guerriers, quoi. Structurés combattants.
Pour moi, il
est très très jeune.
Et derrière, c'est très loin. Hein.
Non, mais après, Ouedraogo est quand même très très jeune. Il va avoir 25 ans au mois de juillet. Il a largement le temps, de se faire une place enfin à contester en équipe de France.
Voilà. Ibanez, c'était capitaine à 23 ans, hein, en équipe de France.
J'ai une petite question, messieurs, pour revenir sur cette finale. Une question, j'imagine que vous allez la balayer d'un revers de main, mais quand même. Montpellier a bien failli encore profiter d'une forme de malédiction sur les buteurs des équipes adverses. On rappelle les faits. Romain Tellet, lors du match de barrage, qui passe quasiment plus rien alors qu'il était à quasi 90% pendant la saison régulière, c'était donc en quart de finale. Johnny Wilkinson, le match précédent, qui avait déjà connu des difficultés avec les Toulonnais dans un match décisif pour la qualification pour les Montpelliérains. Jonathan Wisniewski, meilleur réalisateur du top 14, qui n'existe plus tant sur les pénalités que sur les drops à grande force lors de la demi-finale du top 14. David Skrela, qui est un buteur régulier, qui est sans doute pas le meilleur de sa génération, mais qui est un buteur régulier aux alentours de 75% de réussite cette saison, qui est une nouvelle fois complètement absent de cette finale, qui frappe deux fois les poteaux, etc. Alors, on va pas croire évidemment aux explications du marabout. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer une raison?
C'est Pierre Salvia qui est marabout.
C'est un heureux concours de circonstances pour Montpellier.
Ce n'est que ça.
Et ça explique pourquoi Montpellier se retrouve en finale. Voilà, c'est tout.
Ce n'est que ça.
Une anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Montpellier-Toulouse de la saison régulière.
22-21.
Toulouse perd 22-21. Et Nicolas Bézi, à la dernière seconde du match, met la pénalité à 22 mètres face au poteau, sur le poteau droit.
Voilà,
donc c'est vrai que c'est assez marrant, parce qu'il y a souvent les buteurs. Ouais, bon, le maraboutage, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que c'est assez troublant, parce qu'en plus, quand on prend Romain Tellet, c'est un buteur extrêmement régulier.
Oui, mais c'est un concours de circonstances sur un match
aussi,
à chaque fois.
On peut pas expliquer ça par, la pression mise par exemple sur Fulgence Ouedraogo, sur les buteurs, sur une pression physique.
Mais t'as vu les buteurs qui étaient sur le terrain, l'expérience qu'ils avaient, les Tellet et Skrela, entre autres?
Non, il n'y a pas d'explication rationnelle. Ce n'est qu'un heureux concours de circonstances pour les
Montpelliérains. Et ce qui fait que Montpellier, grâce ou à cause de ça, ne sera pas nécessairement en finale la saison prochaine.
Alors justement, quel est l'avenir pour Montpellier? On sait qu'a priori, Fabien Galthié et Éric Béchu souhaitent rester, même s'il y a toujours des points d'interrogation qui s'appellent l'équipe de France. Hein. On va pas se voiler la face, on va pas se cacher les choses. Montpellier semble avoir garder ses cadres, semble avoir recruté quelques joueurs importants. On pense notamment à Rémi Martin en troisième ligne, voilà, pour structurer encore un petit peu plus ce pack et apporter de l'expérience. Voilà. Quel avenir en une minute, messieurs?
Il recrute aussi Thibaut Privat, Jean-Baptiste Peyras. Après, il y en a certainement d'autres.
Quel avenir?
L'avenir de Montpellier, c'est d'avoir trouvé un président qui est un vrai président, c'est-à-dire qui a de l'oseille, qui a pignon sur rue, qui a renfloué les caisses du club.
Et qui est un copain, Pierrot.
Avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer et à propos duquel je peux témoigner que c'est du vrai argent, si tu vois ce que je veux dire.
Contrairement à d'autres, peut-être.
Voilà. Son nom?
Oui, il s'appelle Moed Altrad. Il a écrit sa vie, qui s'appelle Bédouin, parce que c'est un mec qui est venu de rien, qui a fait des études à Montpellier, qui est maintenant le numéro 1 de l'échafaudage en Europe, qui a 3000 employés et qui va gérer le club de Montpellier comme il gère ses entreprises.
Le futur président de Montpellier, Montpellier club structuré, on l'a dit. Montpellier avec quel effectif, on y reviendra évidemment, et avec quelles ambitions lors de la deuxième demi-heure de cette émission. Quel avenir également pour Toulouse, qui a recruté énormément, mais un recrutement qui fait débat. Et puis on parlera de l'équipe de France, de Ginovès également, du Stade français, et puis du marché des transferts avec cette déclaration aujourd'hui dans la Provence de Mathieu Bastaro, qui souhaite rejoindre le rugby club toulonnais.
Carrément Rugby, c'est également à écouter en podcast sur RTL.fr. RTL l'équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
La deuxième demi-heure de Carrément Rugby au programme, bien sûr, bien toujours cette finale du top 14 remportée samedi soir par les Toulousains 15 à 10. Quel avenir pour les Montpellierains? On a esquissé ce débat, on le continuera dans cette deuxième demi-heure. On parlera évidemment de Toulouse et de cette saison prochaine qui se profile avec toujours le même favori, les Rouges et Noirs de Guinovès, ou pas d'ailleurs, puisque la rumeur circule désormais, même si elle a été démentie par Guinovès lui-même. Sera-t-il toujours l'entraîneur des Toulousains la saison prochaine? Il ne postule pas, en tout cas déclaration ce matin, à l'équipe de France. Mais si on venait le chercher, que se passerait-il? C'est l'une des questions, évidemment, à laquelle nous tâcherons de répondre durant cette deuxième demi-heure de Carrément Rugby. Nous reviendrons également sur l'actualité du Stade français, conférence de presse de Max Guazzini en ce moment même, pour expliquer un petit peu ce qu'il se passera la saison prochaine au sein du club parisien, qui risque de perdre Mathieu Bastaro, déclaration en tout cas du centre international. Il veut rejoindre Toulon.
Sur RTL l'équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à midi et demi.
La deuxième demi-heure de Carrément Rugby, toujours en compagnie de Ludovic Ninet de rugbyconnection.com, de Pierre Salviac et de Pierre Firsion, le duo des Pierres présent dans ce studio. Ronan Bourrel, messieurs, vient de m'annoncer son forfait. Il est désolé, mais il vous embrasse bien fort.
Oh bah c'est dommage. Bah alors oui. Vraiment, il va nous manquer celui-là.
Il va nous manquer, Ronan Bourrel. Ton frère de l'équipe, trop de travail, visiblement.
Ah bah oui, t'as raison, il a passé sa semaine en RTT.
Du mal à le croire, mais enfin bon. Passons sur ce point. Et revenons donc, messieurs, sur ce débat qu'on esquissait tout à l'heure sur l'avenir de Montpellier. Montpellier qui nous a cette saison parfois rappelé le Castres de l'année dernière. Est-ce que Montpellier peut grandir? Est-ce que Montpellier peut devenir, avec cet effectif qui se construit, l'un des grands, l'un des favoris, pourquoi pas, de la saison prochaine?
L'un des grands, c'est peut-être beaucoup dire, mais l'une des équipes qu'on peut retrouver habituellement dans les six, pourquoi pas, franchement. Ils ont prouvé en tout cas cette année qu'ils avaient fait des recrutements très judicieux de joueurs quasiment méconnus, et que Fabien Galthié, comme il avait d'ailleurs su le faire au Stade français avant, a su amener à un très haut niveau. On peut penser par exemple à Fakate, qui est à mon avis un espoir même du rugby français,
qui venait de Lyon,
au niveau international. Il y a le jeune DeMarco aussi en deuxième ligne, qui est un jeune formé au club, et qui commence à monter. Enfin, voilà, donc des joueurs comme ça, il y en a beaucoup. Et on peut faire confiance, je pense, à Fabien Galthié pour réussir, et d'ailleurs avec Eric Béchu, hein, pour réussir, je pense, à maintenir une vraie cohésion dans le groupe et à l'amener à progresser.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça esquisse une question aussi. Est-ce que l'avenir de Montpellier au plus haut niveau ne passe que par le maintien en poste de Fabien Galthié et Eric Béchu? Est-ce que Montpellier peut aujourd'hui se développer sans ce duo-là? Pierre Firsion.
Moi je pense qu'il faut reconnaître à Fabien Galthié et à Eric Béchu ce que disait Ludovic. D'ailleurs, on le lisait la chronique de Jean-Pierre Elissalde sur ton blog cette semaine, où il disait y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas et que personne ne connaissait, et ils sont allés les chercher. Alors c'est vrai que tu parlais de Fakate, mais on peut parler de Matadigo, on peut parler de Rofes, on peut parler de Figalo, on peut parler de Bustos Mouyano. Enfin, il y a plein de joueurs qui étaient soit des joueurs qui évoluaient en Premier 2, soit des joueurs qui évoluaient en Top 14, mais dans des petites équipes qu'on ne connaissait pas. Même Sylvain Mirande, qui a joué, moi c'est un joueur que j'aimais bien, mais c'est un joueur qu'on ne voyait pas trop, qui a joué à Agen, et là qui a fait une super saison. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même ce talent-là à Eric Béchu et à Fabien Galthié, d'être allé chercher, de leur avoir fait confiance et d'avoir mis un jeu en place. Est-ce que tout dépendra s'il y a un nouvel entraîneur, qui sait, mais c'est vrai qu'il faut leur reconnaître quand même ce talent-là. Et si Montpellier est arrivé à ce niveau-là, c'est quand même grâce aujourd'hui en grande partie à ces deux entraîneurs.
Béchu, Galthié, Pierre Salviac,
je ne prends pas le problème comme ça. Je suis désolé, moi je regarde le rugby comme du rugby professionnel. Montpellier est une grande ville, donc Montpellier a priori est une garantie pour le développement d'un rugby professionnel. Depuis quelques mois, je vous dis, Montpellier s'est trouvé un président qui a déjà bouché un trou, ce qui veut dire quand même que, tout en étant le club d'une grande ville exemplaire dont on parle sur le plan sportif, Montpellier avait des difficultés à vivre le haut niveau. Montpellier, de ce point de vue-là, est rassuré, donc devient rassurant. En ce qui concerne les coachs, tout le monde sera d'accord pour dire que le binôme fonctionne bien. En ce qui concerne les joueurs, si encore une fois les buteurs adverses n'avaient pas été maraboutés, le club serait sixième du championnat.
Donc, ce qui est déjà très bien pour ce club.
Très bien. Donc n'allons pas très vite, parce que quand tu es sixième, tu peux être la saison suivante cinquième, mais tu peux être aussi septième. Mmh. Donc dans l'état actuel des choses, il faut donner du temps au temps et commencer par se réjouir d'abord que Montpellier, cette saison, au-delà de l'expo exceptionnel d'être allé en finale, a assuré son financement.
Ludo Niné.
Donc ça c'est sûr qu'il y a ces coulisses administratives qui sont primordiales aujourd'hui. Mais moi quand même je ne dissocierais pas le bon avenir de Montpellier du duo Galtier-Béchu. Ou alors il faudrait avoir des gens avec les mêmes compétences, comme on peut en trouver quelques-uns dans le rugby français. Mais sincèrement je pense que...
Qui ?
Bon, des grands managers de club, il y en a quelques-uns. Je sais pas, on va prendre l'exemple de Noves ou Cotter. Enfin, Fabien Galtier, on sait qu'en termes de jeu, même Éric Béchu le reconnaît, il a une connaissance du jeu qui est énorme. Béchu, il a une connaissance des hommes, du combat, de l'importance de se souder pour réussir de belles choses. Sans ces deux-là, ou à moins de mettre quelqu'un avec la même compétence, je ne suis pas certain que Montpellier, d'un point de vue sportif, continuerait à ce niveau-là.
Ça rejoint ce que disait d'ailleurs, juste une petite parenthèse, ça rejoint ce que disait d'ailleurs Fulgence Foudraoglou sur rugbyconnection.com à plusieurs reprises et à Carrément Rugby via Ludovic, c'est-à-dire qu'ils ont cette année appris une exigence qu'ils ne connaissaient pas les années précédentes. Et c'est vrai qu'ils ont sans doute encore aujourd'hui besoin de cette exigence-là du duo Galtier-Béchu. Je te redonne la parole.
Juste une remarque, les trois cadres techniques et de Toulouse et de Montpellier sont des Français. Juste une remarque. Pour rappeler à ces présidents de club qui débarquent de je ne sais où qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher très loin des bons entraîneurs. Il y en a.
Il n'y a encore pas longtemps, le champion de France était quand même Verne Cotter.
Oui, 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 mais c'était un Cotter sur une jambe de bois aussi.
Excellent.
Moi, juste pour Montpellier, pour répondre à Pierre qui disait, c'est quand même une grande ville de France. Il y a une structure derrière financière qui est là. Ça n'a pas toujours été le cas parce que Montpellier a quand même beaucoup de clubs qui sont en première division. On pense au foot, on pense au handball. Donc, c'est vrai qu'économiquement, ça n'a pas toujours été simple pour eux. Là, c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. Ils sont en finale. Moi, je parierais pas. C'est très difficile cette année de pouvoir parier avec le top 14 vu comme le championnat est resserré, de pouvoir dire Montpellier sera en demi-finale l'année prochaine. Quand on voit les Toulon, les Perpignan qui n'ont même pas été qualifiés pour les barrages cette année. Bon,
Perpignan, imaginer... je suis plus inquiet, toi.
Ouais, c'est vrai que
parce que c'est une petite ville. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est une petite ville, mais il y a quand même aussi financièrement, je pense qu'ils avaient budgétisé le fait de ne pas être en Coupe d'Europe une année.
9e budget du top 14.
Alors après, il faudra voir s'il manque deux saisons de suite de la Coupe d'Europe, pour eux, ça pourrait être plus compliqué. Moi, je pense qu'en plus, ce qui va changer l'année prochaine, c'est qu'il y a l'arrivée de Lyon et Bordeaux, qui sont quand même deux grandes villes, là où la structure économique va être importante. Lyon, on peut imaginer qu'en plus, avec l'Olympique Lyonnais, il va y avoir sans doute des accords qui vont être passés. On peut imaginer que financièrement, l'argent sera là. Bordeaux aussi. Je pense aussi que le club est amené à se développer. Il faudra, ces deux clubs vont essayer de se maintenir la saison prochaine en top 14 et après de se développer. Donc là, on va vraiment avoir un championnat qui va être, sur les 3-4 prochaines saisons, encore plus resserré. C'est bien pour Montpellier. Je pense, comme Ludovic, qu'il faut que ce duo-là d'entraîneurs reste en place encore pendant 2-3 saisons pour vraiment faire prendre au club un certain envol. Rien n'est encore assuré pour Montpellier. On ne peut pas même dire qu'ils seront dans les 7 premières la saison prochaine.
Alors, on parlait de Montpellier, on va parler rapidement également des Toulousains qui ont une nouvelle fois assis leur domination sur le rugby hexagonal. On a l'impression que quand Toulouse se concentre sur un seul objectif, comme c'était plutôt le cas cette saison, hein, on avait dit assez tôt dans la saison que le Brennus était cette saison, après la victoire de l'année précédente en Coupe d'Europe, l'objectif principal des Toulousains. Ils ont fini par l'emporter. Voilà, on a l'impression que quand Toulouse se concentre sur un seul et unique objectif, je l'ai déjà dit, est quand même assez largement dominateur. Il y a deux doigts qui se lèvent. Le premier, c'est celui de Pierre Salvet.
La vraie question.
Tu sous-entends que je pose de mauvaises questions.
Toulouse est champion de France, n'est pas champion d'Europe. Quand Toulouse a été champion d'Europe, c'était dans une finale franco-française. La question est de savoir si Toulouse, meilleur club français, ce que personne ne conteste aujourd'hui, est un des grands clubs européens.
La réponse est oui, demi-finale de Coupe d'Europe, ils font partie des grands clubs européens.
Oui, mais ils sont pas champions d'Europe.
Que...
Ils étaient champions d'Europe.
C'est vrai aussi qu'avec
les... un club français.
Après avoir éliminé des clubs anglais en demi.
avec les moyens dont dispose Toulouse, en début de saison, il y avait quand même beaucoup de gens qui se disaient que maintenant, c'était le doublé.
Voilà.
Le vrai objectif. L'objectif vraiment ambitieux. Parce que finalement, voir Toulouse champion de France, est-ce que ça surprend? Je ne suis pas certain. Tout le monde se dit que c'est normal. Ils ont les moyens de l'être. Champion d'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer sur le rugby français, les limites du rugby français, c'est déjà un peu plus difficile, comme dit Pierre, face à des équipes non françaises. Mais le vrai doublé, c'est ça l'ambition pour Toulouse.
Alors justement,
et moi cette année, je disais que c'était peut-être l'année ou jamais. On se souvient que je crois que c'était en 2007 où ils perdent en finale de Coupe d'Europe et ils gagnent le Brennus.
2008.
Bon, là, ils sont passés jamais aussi près. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Clément, pour dire que Toulouse, cette année, n'a eu qu'un objectif, le Brennus. Quand on voit la demi-finale qu'ils font face au Leinster, on ne peut pas dire qu'ils ont abandonné en route cette demi-finale. Ils ont joué pour la gagner,
je pense.
Ce n'est pas une grande année de Toulouse, les gars. Rappelez-vous quand même son parcours en championnat, en top 14. Il y a eu des hauts et des bas, quand même.
C'est ahurissant ce qu'on est en train de dire.
Personne ne parle d'une grande année.
Ah bon ?
Ils sont quand même vainqueurs du championnat de France, demi-finaliste européen. C'est une grande année de Toulouse.
Oui, mais tu peux être roi chez les Borgnes aussi.
Non, mais je pense qu'en termes de jeu, ce n'est pas forcément une grande année, mais en termes de résultats, Toulouse regarde Pierre.
C'est normal en termes de résultats.
Regarde Pierre, combien de temps Toulouse est resté premier du championnat ou est resté aux deux premières places du championnat. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, où ils ont dominé le top 14 du début à la fin. Et en Coupe d'Europe.
En marquant beaucoup de bonus défensifs.
Ouais, mais c'est. Encore une fois, en termes de jeu, c'est pas forcément le plus convaincant. Mais en termes de résultats, ça a été là. Et puis en termes de Coupe d'Europe, ils arrivent jusqu'en demi-finale. Bon, il n'y a pas eu d'accro. Ils ont fait quand même
une
belle saison.
La Coupe d'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est deux matchs à gagner. Et souvent, deux, il y en a un à domicile.
Clermont n'est jamais au rendez-vous des demi-finales.
Mais personne t'a dit que Clermont était le grand club de France.
Alors l'objectif, justement, la saison prochaine, ce sera sans doute ce doublé-là. Le recrutement a été fait dans ce sens-là. Beaucoup de joueurs de l'hémisphère sud vont arriver la saison prochaine au sein du Stade Toulousain pour sans doute préparer le remplacement des illustres aînés du stade. On pense notamment à Yannick Josion, etc. Il y a eu un investissement particulier fait sur les postes de demi d'ouverture, de centre notamment. On a l'impression que Toulouse veut gagner en efficacité, que ce recrutement de l'hémisphère sud, il est prétexté par la compréhension plus importante des joueurs de l'hémisphère sud du rugby moderne, que Toulouse veut aller dans ce sens-là et que Toulouse semble armer l'année prochaine pour le doubler.
Moi, je ne dirais pas l'année prochaine quand même. Je pense que c'est l'année d'après. Parce que cette année, il va y avoir le top 14 qui va jouer 8 journées pendant la Coupe du Monde et les joueurs qui recrutent, ce sont des internationaux. Donc, ils joueront cette Coupe du Monde. Donc, on sait le nombre de joueurs qui vont manquer à Toulouse pendant ces 8 premières journées. 8 journées, c'est quand même un tiers de la phase régulière quasiment. Je ne pense pas que l'énorme objectif de Toulouse, ce soit la saison 2011-2012. Je pense que ce sera celle d'après.
Et d'ailleurs, Guy Nouest l'a dit, il était inquiet. Il a dit honnêtement, je suis inquiet pour la saison prochaine parce que ça va être compliqué de faire.
Mais il est toujours inquiet, Guy Nouest.
Oui, il est toujours inquiet. Mais
il a des problèmes de riche. Quoi,
Après, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Une année de Coupe du Monde, c'est jamais simple. Et je ne pense pas que ce soit forcément l'année du Stade Toulousain l'année prochaine.
Alors bon, il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette formation. Il y a quand même la possibilité de construire, même sans les internationaux français, qui seront d'ailleurs un petit peu moins nombreux cette saison que les années précédentes, parce qu'il pourra quand même s'appuyer au centre de son attaque sur une paire Yannick Josion, Clément Poitrenaud.
Et Florian Fritz.
Donc, a priori, il a quand même des solutions dans son équipe, le père d'Innovest, qui sera peut-être d'ailleurs plus l'entraîneur du Stade Toulousain la saison prochaine. Est-ce que vous avez été sensible à cette rumeur qui a visiblement parcouru les travées du Stade de France samedi soir? D'Innovest était annoncé sur le départ de Toulouse. Est-ce que vous y avez cru? Pierre, je crois que tu as eu D'Innovest ce matin.
Oui, parce que je m'attendais à ce que tu me poses la question, donc je l'appelais. Donc on a parlé pendant une demi-heure ce matin. Alors qu'est-ce que je retiens de la conversation? 1. On ne lui a pas fait officiellement la proposition d'entraîner l'équipe de France. Mais ça, c'est normal.
Ça veut dire qu'elle lui a été faite officieusement, que ça a été le sujet de discussion.
Non. On ne lui a pas fait officiellement la proposition d'entraîner l'équipe de France. Mais ça, c'est normal, parce qu'il y a le temps pour tout. Et qu'il y a logique à ce que la fédération qui décidera in fine ne lui fasse pas une proposition officielle avant la fin de la Coupe du Monde. D'accord. Deuxièmement, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que il ne ferme pas la porte. Il ne ferme pas la porte à une proposition qui viendrait de la fédération lui offrant le poste de sélectionneur de l'équipe de France.
Il
ne postule pas. En revanche, quand tu discutes avec lui de cette perspective-là, que te dit-il? Il te dit qu'il ne se voit pas manager de l'équipe de France dans un autre système que celui qu'il a mis en place au Stade toulousain.
C'est-à-dire avec Jean-Baptiste Elissane et Yannick Bru.
Pas nécessairement avec les mêmes hommes, mais avec un staff. C'est-à-dire que s'il acceptait, à supposer qu'on lui proposât le poste de manager de l'équipe de France, la condition qu'il mettrait serait de venir avec un staff organisé selon le modèle du Stade toulousain.
C'est
pour
propre.
Qu'il en arrive à te dire tout ça, c'est que quelque part, me semble-t-il, mais c'est ma déduction personnelle, il y pense de temps en temps le matin en se rasant.
C'est clair, c'est concis, c'est réfléchi.
Et ça serait quand même drôle, juste pour l'anecdote,
oh, ce serait fantastique.
De voir Guinovès face à des entraîneurs de clubs qui râleraient parce qu'on leur prend leurs joueurs, ça serait quand même très drôle.
Non, mais
ça,
ce serait
juste pour ça, moi j'aimerais bien le voir. Après, je pense que sur la capacité de l'homme à pouvoir manager une équipe comme l'équipe de France, on ne va pas revenir là-dessus. Guinovès, c'est combien? C'est 10 titres en tout, je crois.
Plus.
Plus, 11, me semble.
Il est à 13. Il est à 9 championnats plus 4 coupes.
Oui, voilà.
Ah oui.
Alors, il est à 13.
Tu parles de.
J'en avais oublié en route.
Ah oui, si on ajoute ceux comme joueur.
Ouais, non, moi, je parlais que ceux d'entraîneur. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Après, est-ce que le discours de Guinovès, l'homme qu'il est, pourra s'adapter avec des gens au sein de la fédération qui ne pensent pas forcément comme lui? Ça, c'est un autre débat.
Ce sera fantastique.
Moi, je pense surtout que. Alors, se faire un staff, c'est devenu maintenant normal. Marc Lévremont, il est arrivé avec ses adjoints. Ils ont finalement inclus aussi Gonzalo Quesada qu'ils ont fait rentrer. David Ellis, entraîneur de la défense, etc. Donc avoir son propre staff, c'est voilà, ça se fait. Maintenant, Guinovès, il se retrouverait à la tête de l'équipe de France avec les mêmes contraintes que Marc Lévremont depuis 4 ans. C'est-à-dire que Guinovès, qui a su instituer un système à Toulouse au quotidien, se retrouverait à gérer une équipe de France X semaines par an seulement. Donc, toute compétence qu'il puisse avoir, ça ne veut pas pour autant dire
c'est
qu'il
pas le même métier. Quoi.
Voilà, exactement. Ce ne serait pas le même métier. Maintenant, lui a démontré de telles compétences par ailleurs qu'il saurait peut-être prendre ça d'une autre manière.
Donc, au final de notre conversation, je lui ai dit, mais en fait, le portrait robot que tu dresses du manager de l'équipe de France, tel que toi tu le vois, c'est exactement le modèle Woodward. Ça m'a rappelé à peu près le modèle Woodward qui arrivait dans l'équipe d'Angleterre avec une structure lourde, etc., mais complètement à sa dévotion, etc. Elle m'a pas dit non. Donc moi, la seule chose que je peux conclure de cet entretien, qui a quand même été assez long, et je l'ai beaucoup écouté, c'est qu'à aucun moment, pendant cet entretien, même s'il m'a dit qu'il était encore sous contrat avec le Stade Toulousain, mais c'est de lui que dépend ce contrat, c'est-à-dire qu'il m'a dit si je veux le rompre... Je suis libre de le rompre quand je veux. Ce que je retiens de cette conversation, c'est que, à supposer qu'on lui fasse la proposition, parce qu'il y a trop de fierté pour la demander, mais il est dans la situation de voir les choses comme ça, et à supposer qu'on lui donne un livre blanc ou carte blanche, en tout cas pour faire son staff, il n'est pas si loin qu'on le croit de l'équipe de France.
On a 10 petites minutes, messieurs, encore dans Carrément Rugby. Je vais vous prendre peut-être un petit peu par surprise, mais je vais vous demander. Un coup de cœur ou un coup de gueule cette saison, c'est assez classique, mais ça permet de faire un bilan général sur cette saison 2010-2011 de Top 14. Qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce qui vous a marqué cette saison dans ce championnat? Je vais commencer par Ludovic Ninet.
Ah, c'est là tu nous prends vraiment par surprise.
Ouais,
c'est vrai, c'est un tac-tac 4 deb intérieur.
Tu veux que je te fasse gagner du temps?
Vas-y, Pierre.
Ben, moi, c'est Montpellier. Parce que, vous savez, au début de la saison... Je regardais, parce que j'étais préoccupé par l'avenir de La Rochelle en top 14, et je regardais quels étaient les clubs qui pourraient descendre plutôt que La Rochelle, et j'avais mis Montpellier. Et puis je me suis rendu compte au cours de la saison que ce Montpellier auquel je ne donnais aucune chance s'est retrouvé finalement au Stade de France pour le bouclier de Brennus. Donc ma grande surprise de la saison, franchement, c'est Montpellier, et je me dis que... ce club a donné 4 joueurs à l'équipe de France, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, qui pourront en donner d'autres, parce que je vois des talents arriver qui sont formés au club. Et si je dois penser à une surprise au cours de cette saison de top 14, la première chose à laquelle je pense, c'est à l'exemple de Montpellier.
Moi, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt une image un petit peu triste. C'est la descente de Bourgoin, et je pense que c'est
la fin d'une certaine idée du rugby. On voit que le rugby rentre dans une ère qui est... Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais l'argent aujourd'hui, quand même dans le rugby, a une place qu'il n'avait pas à une certaine époque. Et des petites villes, on en parlait tout à l'heure, mais des petites villes comme Bourgoin ne peuvent plus exister dans ce monde-là. C'est la fin d'une certaine idée du rugby. C'est un petit peu triste en soi parce que Bourgoin a été quand même un grand club formateur. On ne va pas passer tous les joueurs qu'ils ont formés, oui. Mais on peut penser à Julien Pierre, à Sébastien
Finaliste.
Chabal, à Benjamin Boyer. Bon, Lionel Nallet, il y en a eu beaucoup. Et c'est vrai qu'en soi, c'est un petit peu triste de se dire que ce monde-là est en train de... Ben voilà, c'est terminé. Bon, on va les suivre en Pro D2. Ça va être, à mon avis... compliqué pour eux. Je crois qu'ils ont recruté comme entraîneur
Laurent Seigne. Oui, Laurent Seigne. Est-ce que c'est une référence? Je ne suis pas sûr, voilà, mais bon, on verra.
On va voir.
Ça fait partie des choses à suivre l'année prochaine, Ludovic Ninet.
D'un point de vue collectif, je suis d'accord avec mes deux collègues. Montpellier, c'est vrai que c'est une belle surprise et Bourgoin, c'est une vraie tristesse. Moi, je retiendrai juste d'un point de vue individuel. J'ai bien aimé de revoir Maxime Médard en grande forme après la saison un peu blanche qu'il avait faite l'année dernière. Je suis très heureux de voir un jeune comme Jean-Marc Doussin s'imposer avec les qualités qu'il a. Et puis, en fait, je regarderai un peu tous les jeunes français qui poussent. Il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse, il y en a un peu ailleurs. Et puis, voilà, c'est ça que je retiens, moi.
Ma petite coup de cœur pour les Castrets, dont on n'a pas énormément parlé cette saison, mais qui ont su confirmer. Alors, effectivement, petite difficulté pour...
On est déçus quand même en demi-finale, voilà, chez eux.
Pour passer le stade, en quart de finale,
chez moi.
Pour passer le stade, mais quand même, ils ont su, avec un effectif qui avait somme toute assez peu bougé et un duo d'entraîneurs qu'on sait particulièrement compétents, embêter les Drôts, encore embêter les Drôts.
T'as pas le droit de perdre à Montpellier en quart de finale, chez toi.
Ça fait peut-être partie, effectivement, des déceptions, mais voilà, ça faisait partie des petits coups de cœur éventuels de cette saison.
Non,
juste rapidement, messieurs, il nous reste 6 minutes dans ce Carrément Rugby. Je voudrais qu'on vienne sur le Stade français. Ah. Ça a été un des débats de nos semaines précédentes. Ah. On ne savait pas trop si le Stade français allait s'en sortir ou pas. Ah. La décision de la DNACG a été officialisée en fin de semaine dernière. Le Stade français sera bien en top 14 la saison prochaine. Pierre Salvier.
Alors, la question, c'est est-ce que la décision de la DNACG se justifie ?
On rappelle, c'est l'organisme qui est chargé de vérifier les comptes des clubs,
voilà,
professionnels.
Et qui a accepté le modèle économique proposé par Bernard Laporte, qui se révèle comme l'homme fort maintenant du Stade français, puisque c'est son modèle qui a été accepté.
Et qui tient une conférence de presse aujourd'hui au Total Match Guadeloupe.
Alors, l'investisseur canadien qui vient sauver le Stade français, qui est-il ? D'après ce que j'ai compris, en tout cas d'après ce qu'on m'a expliqué, pourquoi ce type qui n'a rien, mais vraiment rien à voir avec le rugby français et qui n'a a priori aucun intérêt à aider un club comme le Stade français, vient-il dans cette galère ? Il se trouve que, d'après ce qu'on m'a expliqué, il serait à la tête d'une société écran qui cacherait une société qui fait de la promotion immobilière sous couvert d'une organisation caritative. Une fois que j'ai dit ça, comment peut-on expliquer malgré tout qu'il soit venu, parce que il ne peut venir que si on a fait la promesse d'un retour sur investissement.
Jean Boin,
c'est fait. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que partout ailleurs dans le monde, il a procédé de la même façon, c'est-à-dire que sous couvert d'une œuvre caritative, il a eu la promesse de marché immobilier.
Bah, on appelle ça un escroc, en fait, non ?
Non, non.
Sous couvert de...
Système un peu de rétrocommission.
C'est le système colonie capitale, mais qui ne s'affiche pas comme tel. C'est-à-dire, on achète, on investit dans un club, mais pour faire de la construction derrière, pas pour faire marcher le club.
C'est pour ça que je parlais de Jean Boin.
Là, en l'occurrence, ce que je peux comprendre de ce qu'on m'a expliqué, dans ce cas-là, ça serait logique, voilà quelqu'un, encore une fois, qui avait besoin de clés pour investir sur le marché parisien du mobilier ou de l'immobilier, si tu appelles ça comme tu veux. Et je voudrais savoir qui lui a fait la promesse de retour sur investissement dans l'immobilier à Paris.
Ce que tu nous dis, c'est que ça pue.
C'est l'homme fort du Stade français, non ?
Ça rejoint ce que disait plus ou moins Ludovic Ninet la semaine dernière, c'est-à-dire que quand on cherche à prendre contact avec ces gens-là, c'est que c'est quand même particulièrement difficile, quoi. Voilà.
Visiblement, Henri Bru de l'équipe y a réussi. Moi, j'avais fini par recevoir un mail où on m'a dit oui, quelqu'un en France va finir par prendre contact avec vous pour vous expliquer pourquoi on investit. J'ai jamais eu ce contact. Visiblement,
Henri Bru, il n'a eu que la première page qui s'affiche sur Internet.
Ah bah,
mais j'y suis allé aussi, moi.
Non, mais visiblement, il avait eu quelqu'un aussi au téléphone. Il a écrit dans le journal. Mais c'est vrai que tout ça est assez bizarre. Oui. Mais après, on peut imaginer que ce truc, c'est simplement t'investis là au Stade français et puis moi, je t'ouvre les portes à côté.
Voilà, je tiens ce en que gros, je vous ça, dis, en tout cas, d'une source proche de Bernard Laporte. Ça ne m'étonnerait pas, mais ce montage me paraît quand même bizarre. En tout cas, je suis pas sûr qu'il soit très recommandable. Je me demande quand même si la DNACG a pas été un peu légère
faute d'être prévenu.
En acceptant ce montage-là, il faudrait pas que le monsieur, j'ai perdu son nom, mais peu importe, de toute façon, qui vient à 50-50 dans la société qui a été construite exprès pour ça en France, il faudrait pas que ce monsieur soit le clone d'un certain monsieur Vinquia, qui était venu dans les valises de Bernard Laporte pour sauver Bègle il y a quelques années et qui aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, serait presque SDF.
Le sauveteur
qui était proche de la prison, je crois, à une époque.
Ah non, ça, c'était celui qui est en prison. Celui qui est en prison, c'est celui qui venait avec Depardieu dans le même montage avec sa société. Voilà.
Non, c'est
un autre sort comme Khalifa.
C'est Khalifa Airways. C'était Khalifa Airways.
Donc,
c'est voulu prendre l'Olympique de Marseille.
Alors, moi, je veux croire pour Max Guazzini, qui ne mérite pas la déchéance, qui a beaucoup donné, etc. Je veux croire que le montage est crédible. Mais j'ai encore des doutes.
Le Stade français qui devrait perdre Mathieu Bastaro, qui voudrait partir à Toulon. Rapidement, messieurs, bon choix. On a une minute pour conclure sur ce sujet. Bon choix de Mathieu Bastaro, qui peut se relancer sur la rade.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit se relancer. Est-ce que c'est le bon choix à la rade? Je ne sais pas, mais a priori, oui, il veut se relancer, il doit se relancer. Donc partir, ce n'est pas forcément le mauvais choix.
C'est un gâchis pour l'instant de voir Mathieu Bastaro rester au Stade français et ne pas faire partie des plans de Marc-Olivier Remond pour la Coupe du Monde quand on connaît le potentiel du garçon, n'est-ce pas, Pierre Salviati?
Les intérêts de Bastaro sont en ce moment défendus par un avocat qui était mon avocat. Et pour autant que je me souvienne de cet avocat-là, il défend davantage ses intérêts que l'intérêt de ses clients. Alors moi, je serais à la place de Bastaro, je me méfierais.
Ça reste pas un bon souvenir, visiblement, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce Carrément Rugby. C'est la fin de cette saison de Carrément Rugby. C'est peut-être même la fin tout court de Carrément Rugby. On aura sans doute l'occasion de se retrouver sur les terrains, de retrouver tous les auditeurs passionnés de rugby tout au long de ces prochaines saisons. On aura évidemment l'occasion de reparler de rugby dans les prochains jours sur RTL L'Équipe, si l'actualité le nécessite. Je voudrais remercier Pierre Salvia, je voudrais remercier Ludovic Ninet et conseiller à tous les auditeurs de se déplacer vers le www.rugbyconnection.com pour apprendre et lire des actualités du rugby français. Merci également à Pierre Firsion, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission tout au long de cette saison.
Et à Renaud Bourrel,
on pense notamment à Renaud Bourrel, on pense à Jérôme Milagou, on pense à Yann Boucherie, on pense à Nicolas Delage d'Eurosport, on pense à tous ceux qui ont fait que Carrément Rugby était un moment très convivial et très
Spanguero,
sympa à passer. Et Philippe Spanguero, il doit être en Argentine encore, figurez-vous,
Missing in Action.
En train de préparer une tournée, une nouvelle tournée, pourquoi pas, ou de participer à celle des Barbarians. On aura sans doute l'occasion de lui en reparler. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. À très très vite sur le www.rtl-l'équipe.fr.